France Musique. Musicopolis. Miles Davis, chapitre 2, années 50, le premier quintet. En quelques années à peine, Miles Davis est devenu une figure marquante du jazz aux États-Unis. Après avoir beaucoup joué aux côtés de Charlie Parker et Dizzy Gillespie, les inventeurs du bebop, à 22 ans, en 1948, Miles a réuni un groupe de 9 musiciens, un honnête avec qui il a créé un son nouveau. Mais c'est un peu tôt encore pour les oreilles du public et il faudra attendre presque 10 ans pour que les enregistrements de ce groupe ressortent sous le nom de Birth of the Cool, naissance du cool, et qu'il trouve le succès. Semble donc se dérouler au mieux pour Miles Davis à la fin des années 40. En mai 1949, il apparaît au Festival de Jazz de Paris, dans la formation de Tad Dameron. Avec Sidney Bechet et Charlie Parker, qui sont les invités phares, Miles est le plus fêté. Il est adoré, admiré, bombardé de questions, entouré de fans et de musiciens qui veulent tout savoir de lui, comment il travaille, quelle embouchure il emploie, etc., etc. Il rencontre des célébrités, artistes et intellectuels, Pablo Picasso, Jean-Paul Sartre, Boris Vian, Juliette Gréco. Miles et Juliette ont le coup de foudre et leur histoire d'amour va durer par intermittence pendant plusieurs années. Miles est galvanisé. Lorsqu'il rentre aux États-Unis après l'épisode parisien, alors qu'il a été adulé en France comme un musicien de stature internationale, Miles Davis tombe de haut. À 23 ans, il a participé à écrire l'histoire du jazz avec Charlie Parker et avec ses propres enregistrements du Nonette. Mais en Amérique, il n'y a pas de travail pour lui, pas d'avenir, pas de perspective de former un groupe stable. Il tombe dans l'ennui et le désespoir. Alors qu'il avait jusqu'ici montré une autodiscipline de fer, montrer qu'il était le musicien le plus clean du bebop, il va sombrer dans l'addiction à l'héroïne. Pendant 4 ans, il sera dominé par la drogue, travaillant peu, d'une santé de plus en plus chancelante, prêt à tout pour trouver l'argent pour sa dose. Il laisse tomber sa famille, Irène et leurs deux enfants. Il joue très peu, mais il est parfois appelé pour des enregistrements. En mai 1950, par exemple, il enregistre avec la chanteuse Sarah Vaughan. Il dira plus tard qu'il aime le son qu'il a trouvé auprès d'elle.
I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't spring. I'm starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever when it isn't even spring?
de plus en plus mal et en mauvaise santé, Miles Davis disparaît de New York. Il retourne un moment auprès de sa compagne Irène et il a un troisième enfant, Miles 4. Il joue toujours très peu, mais il a été remarqué par le directeur enthousiaste d'une petite maison de disques qui a beaucoup apprécié le travail en honnête et qui est persuadé que là, Miles a trouvé son identité. Il va le faire enregistrer pour le label Prestige. À l'automne 1951, à nouveau pour le label Prestige, Miles Davis se rend en studio pour enregistrer, mais pour la première fois, le format change. Il s'agit à présent d'un 33 tours. Et donc la durée de chaque morceau n'est plus limitée à une face de 78 tours, c'est-à-dire grosso modo 3 minutes. Pour la première fois donc, les musiciens n'ont pas besoin de se restreindre. C'est une liberté bien plus grande, en particulier pour Miles, dont la veine d'improvisateur peut s'épanouir encore plus sur la longueur. En dehors des quelques séances d'enregistrement pour le label Prestige, Miles Davis travaille toujours très peu. Son père l'aide. Il voudrait qu'il puisse suivre une cure de désintoxication, mais c'est trop tôt. L'année 1952, hormis quelques dates, est désespérément vide et misérable. En 1953, sa santé est très mauvaise, mais il fait un retour sur son répertoire. Il revoit et réinterprète certains morceaux sur lesquels il a travaillé par le passé. Il a 3 séances d'enregistrement cette année-là, la première avec Charlie Parker et Sonny Rollins. Mais l'ambiance n'est pas agréable entre les musiciens, notamment avec Parker. En dehors de ces quelques sessions d'enregistrement, Miles a beaucoup de mal à trouver des engagements. Il fait équipe néanmoins avec Philly Joe Jones, batteur avec qui il s'entend très bien. À défaut de pouvoir engager un quintet permanent, il est réduit à apparaître dans des petites villes où Jones lui trouve des musiciens pour l'accompagner, mais ça n'est pas commode d'en trouver des bons. On commence à oublier Miles Davis, qui est éclipsé par des jeunes trompettistes prometteurs comme Chet Baker ou Clifford Brown. Miles passe plusieurs mois dans un coin perdu de Détroit, à jouer avec la section rythmique d'un club local. Il suit quelque temps Max Roach et Charlie Mingus en Californie. Mais son comportement de junkie est épouvantable et ses amis perdent patience. Finalement, Miles téléphone à son père, qui lui envoie l'argent du bus et il rentre à East St. Louis. Dans la ferme de son père, il va se désintoxiquer tout seul. J'étais décidé, raconte Miles Davis, à me sortir de la drogue. J'en étais malade et j'en avais ma claque. Vous savez, on peut se lasser de n'importe quoi, on peut en avoir marre d'avoir peur. Je me suis couché et j'ai regardé le plafond pendant 12 jours et j'ai maudit tous ceux que je n'aimais pas. Je me débattais durement. C'était comme une très mauvaise grippe, mais en pire. J'étais allongé avec des sueurs froides. Mon nez et mes yeux coulaient, je vomissais tout ce que j'essayais d'avaler. Mes pores s'ouvraient et je sentais la soupe de poulet. Et puis ça a été fini. Après s'être désintoxiqué de l'héroïne, Miles Davis retourne en studio pour quelques séances d'enregistrement. Il n'est pas encore en bonne santé, l'addiction a laissé de profondes cicatrices. Mais il y a longtemps qu'il n'a pas joué, il est plein d'idées nouvelles. Il arrive à une nouvelle perfection du son. Il expérimente différents types de sourdines. Il choisit des musiciens avec qui il s'entend bien et qui partagent ses vues musicales. Il explore aussi le répertoire et il se fait un catalogue des thèmes sur lesquels il aime improviser. En juin 1954, il est en studio en quintette, avec Sonny Rollins au saxophone ténor, Horace Silver au piano, Percy Heath à la contrebasse et Kenny Clarke à la batterie. Parmi les thèmes choisis, Oléo de Sonny Rollins. Miles essaye ce jour-là une nouvelle sourdine, la Harmon, une sourdine métallique qu'il faut placer tout près du micro et qui donne un son plus expressif que la sourdine Boll, plus neutre qu'il utilise habituellement. Thank you. L'année 1954 est celle du retour pour Miles Davis, libéré de son addiction à l'héroïne. Il travaille son nouveau répertoire de thèmes, il révèle de jeunes musiciens, Horace Silver, Sonny Rollins, mais il lui manque encore les épaules financières pour avoir un groupe permanent. Il fait même de la prison au printemps 55 parce qu'il ne peut pas payer la pension alimentaire pour ses trois enfants. C'est en prison qu'il apprend la mort de Charlie Parker à 34 ans. Une mort qui choque tous ses amis. Miles lui-même a déjà 29 ans et avec les 4 années gâchées par la drogue, il n'a plus de temps à perdre. Par chance, il va être engagé pour jouer au festival de Newport en juillet 1955. Il se retrouve avec des musiciens qu'il connaît bien et avec qui il a déjà enregistré. Au festival de jazz en juillet 55, deux hommes ont été particulièrement impressionnés par les interventions de Miles Davis. George Avakian, directeur artistique chez Columbia, et son frère Aram, photographe. Après le solo de Miles dans Round About Midnight, Aram se tourne vers George. « Il faut que tu l'engages, n'hésite pas !» George hésite. Miles est encore sous contrat chez Prestige. Et puis, il ne s'est pas encore refait une réputation sans tache. « Ne sois pas idiot !» lui dit encore Aram. « Tu ne l'as pas entendu jouer ? C'est ce qu'il y a eu de meilleur de tout le festival !» George finira par se ranger à l'avis de son frère et quelques mois plus tard, le contrat sera signé avec la firme Columbia. À présent, Miles a un manager, l'avocat Harold Lovett, fanatique de jazz. Lovett va profiter du succès de Newport pour faire entrer Miles dans une agence qui permet de trouver des engagements. Enfin, Miles va pouvoir former un groupe permanent, un quintet. Il choisit les musiciens avec soin. Philly Joe Jones, complice de longue date, à la batterie. Jones a le quelque chose dont Miles a besoin. Il aura Paul Chambers à la contrebasse, un jeune de 20 ans, tout juste arrivé de Détroit, Red Garland au piano, qui a la pêche rythmique et qui peut être aussi très délicat. Au saxophone, Miles voudrait Sonny Rollins, mais Rollins est introuvable. Les autres musiciens lui recommandent tous John Coltrane, de Philadelphie. Avec son nouveau quintet, Miles Davis va commencer à travailler et à enregistrer. Il a un contrat de 20 semaines par an au Birdland, à New York, et encore d'autres dates à New York et à Chicago. Et encore des enregistrements pour Prestige et bientôt pour Columbia. Le début d'une nouvelle époque. Le New Miles Davis Quintet, avec Miles Davis à la trompette, John Coltrane au saxophone ténor, Red Garland au piano, Paul Chambers à la contrebasse et Philly Joe Jones à la batterie, enregistré le 16 novembre 1955, c'était The Theme, le thème de Miles Davis. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Élise Kravets pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Philippe Thibault pour le mixage. À réécouter sur francemusique.fr.